Turning now to the Gospel of John, chapter 6 and verse 35.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 35. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Et Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et notre sujet est le suivant, la source de la vie éternelle. C'est là la première occasion, la première déclaration « Je suis » du Seigneur. Ces métaphores extraordinaires, « Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vigne. » Et c'est là le premier « Je suis le pain de vie ». Oui, c'est une métaphore. Ce sont toutes des métaphores, c'est évident. Le contexte également rend ceci très clair. Au verset 26, Jésus leur répondit et leur dit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ils voulaient simplement des biens matériels. Et il leur dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et ce terme, la nourriture, c'est le même terme que le pain, c'est une métaphore pour le salut, pour cette substance spirituelle, la vie et la bénédiction. C'est si évident. Et au verset 33, « Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Ainsi, ceci présente la scène et le contexte. Et ce soir, dans le peu de temps que nous avons, je propose de vous donner trois points pour ce verset. Le premier point est le suivant. C'est une métaphore qui parle de lui, de Christ. Deuxième point, ceci parle de nous. Et troisième point, ceci parle de la vie éternelle. Ce verset peut être divisé sous ces trois points. Ceci parle de lui, je suis le pain de vie. C'est extraordinaire et surprenant et étonnant que le Fils de Dieu égale au Père, le membre de la Trinité par qui toutes les choses ont été créées. Le membre de la Trinité égal au Père et égal à l'Esprit à qui a été donnée la tâche entière de la création. C'est extraordinaire que ce soit lui, le Seigneur de gloire, le Créateur de toutes choses, qu'il se décrive lui-même comme étant simplement du pain. Je suis le pain de vie. Bien sûr, il y a un sens extraordinaire et profond. Mais la métaphore commence en étant petite et humble. Je suis le pain de vie. Est-ce qu'il n'aurait pas pu nous donner quelque chose de bien plus grand? Quelque chose de merveilleux, de spectaculaire? Mais c'est intentionnel ici. Comme Ésaïe dit dans une prophétie, 700 ans avant que Christ ne vienne, humainement parlant, dans son apparence, il n'avait pas d'apparence à attirer, et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté pour le désirer. Il viendra comme un homme ordinaire dans son aspect, sans aspect spectaculaire et merveilleux. Il viendra dans une pauvreté apparente, dans une simplicité. Il est venu pour endurer l'humiliation. Il est venu de la gloire du ciel dans ce monde plein de péchés, d'échecs et loin de Dieu, pour nous représenter, pour prendre à notre place notre péché, notre condamnation, pour aller à la croix du calvaire où il va souffrir et mourir en portant la condamnation pour notre péché, la condamnation qui nous est dû à tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Il est venu pour accomplir cette tâche humiliante. Il dit « Je suis le pain de vie ». Il est né dans une province pauvre dans son pays. Il est né dans une famille pauvre d'ouvriers, pas dans un palais royal ou dans une famille de prêtres avec des habits pauvres, pas de position sociale particulière, pas d'acceptation dans la société. Cependant, il est l'accomplissement de la prophétie et il a une puissance extraordinaire et son enseignement l'authentifie. Il a la puissance de ressusciter les morts. Le Créateur est venu, celui qui portera nos péchés, celui qui est venu pour être humilié. Je suis le pain de vie. Réfléchissons un peu à quelque chose que cette métaphore nous apporte. Le pain, je suis, dit-il dans cette métaphore, je suis disponible librement comme le pain. C'est partout. Ces guérisons étaient pour tous. Ceci semblait être pour tous, si étendu, si large. Il y avait des villes dans lesquelles des milliers de personnes ont été guéries. Ces guérisons étaient disponibles pour tous. Son enseignement était compréhensible, même pour les pauvres. Tout en lui montrait qu'il était disponible, qu'on pouvait s'approcher de lui, comme le pain. Une métaphore extraordinaire. Pour Christ, le Fils éternel de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu pour être un sauveur. Et le pain peut être pris par tous. C'est une généralisation. Il n'y a pas de restriction pour le pain. Il y a quelques années, et semble même presque trivial que de mentionner cela, mais j'ai lu l'histoire d'un jeune homme qui mangeait uniquement du pain et de la confiture. Et il ne pouvait digérer rien d'autre que du pain et de la confiture. Je ne sais pas quel était son problème, mais c'était tout ce qu'il pouvait manger. Et quand il avait 17 ans, 18 ans, cet article a été écrit sur lui. Mais il était vigoureux, il jouait dans un club de rugby, mais tout ce qu'il mangeait, c'était du pain et de la confiture. Mais il arrivait à survivre et à être fort. Et tous ses amis ont oublié son nom parce que tout le monde l'appelait garçon de la confiture. Tout le monde peut manger du pain. C'est disponible pour tous. De même pour Christ, il est venu pour être un sauveur. Vous pouvez être riche. Il y a beaucoup de gens riches qui ont vu leurs limites et qui se sont tournés vers Christ, qui ont compris ce qu'il a fait pour être leur sauveur. Ils lui ont donné leur vie et il les a transformés, il les a sauvés. Et certains des plus grands intellectuels dans l'histoire du monde ont été convertis à Christ. Et les gens les plus simples dans le monde, certains ont été convertis à Christ et ont reçu une profondeur dans la vie qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Oh, il est pour tous et tout le monde peut l'avoir, les riches, les pauvres, les gens célèbres, les gens qui ne sont pas connus, le pire des pécheurs, Christ est pour tous. Le pain est une métaphore parfaite. Je suis le pain de vie. Chers amis, le pain n'a pas de goût particulier. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cela, mais de manière générale, nous ne pensons pas que le pain a un goût exotique ou attirant d'une certaine manière ou spécial. La puissance du pain est vue dans son résultat. Ceci vous donne de l'énergie, de la force, et c'est tout ce que vous mangez. Et n'oubliez pas que pendant bien des années, les gens ordinaires ne mangeaient que du pain. J'ai lu il y a quelques années la vie d'un homme qui, dans les années 70, est devenu le principal d'une école près de Ipswich. Il écrivait par rapport à l'histoire de la province et par rapport à sa propre vie. Dans les années 30, sa famille est passée par un temps de privation. Son père était fermier. Et c'était dans le Suffolk, à la campagne où il vivait. Il y avait 5 ou 6 enfants. Les plus âgés avaient 7 ou 8 ans. Et Le fermier ne payait plus ses ouvriers à la ferme et ne pouvait plus payer sa famille pendant plusieurs semaines. Et ainsi, ils sont arrivés à un point où ils n'avaient plus rien, plus de nourriture. Et cette famille ne voulait pas emprunter de l'argent. Et ils ont essayé de continuer autant que possible. Et le troisième jour, sans pain, le père a dit « Je dois aller au moulin ». Dans ces jours-là, il y avait encore des moulins pas loin, et il a pris son chariot, son cheval et les enfants à l'arrière, et ils sont allés le soir vers le moulin en plaidant pour un peu de farine, parce qu'il n'avait plus rien. Et il allait lui rendre l'argent à la fin du mois, s'il le pouvait. Mais l'homme au moulin ne voulait pas lui donner, jusqu'au jour où il a vu ses 5 ou 6 enfants-là qui l'ont regardé à l'arrière du chariot et qu'il leur a donné du pain. Et cet homme se rappelle de cela et ils n'avaient plus faim. Ils ont pu préparer du pain et manger. Les familles ordinaires souvent connaissaient la faim et la privation. Le pain résout le problème et donne à manger et alors ils n'ont plus faim. Combien ceci est bienvenu. Et Christ, Christ est le pain de l'âme pour ceux qui réalisent qu'ils en sont à leurs limites. La vie n'est rien dans ce monde matériel sans mon Dieu. J'ai besoin du pardon de mon péché. J'ai besoin de me tenir au jour dernier devant Dieu. J'ai besoin de marcher avec lui. Et Christ est le pain entièrement suffisant, le sauveur qui donne toute la nourriture à l'âme. Mais le pain est inutile, simplement dans les champs, sous forme de blé, vous ne pouvez pas le manger, ceci ne va pas vous aider. Il doit être récolté, il doit être préparé, il doit être cuit avant de pouvoir le manger. Quelle image de Christ! Même Christ, dans son ministère, et quand il guérissait les foules, des milliers de personnes, quand il restaurait des membres qui étaient handicapés et qu'il ressuscitait les morts, ceci ne sauvez pas les gens éternellement, mais d'être capable de sauver l'âme, d'être un sauveur. Il a dû être brisé, il a dû aller à la croix du calvaire, il a dû souffrir et mourir dans l'agonie. Il a dû personnellement prendre la condamnation du péché à la place de tous ceux qui seront pardonnés pour chacun. Il a dû mourir, il a dû être brisé. Suite à cela, il est un sauveur puissant, qui a payé le prix pour notre salut, notre péché peut être pardonné. Il a souffert, il est mort à notre place. Le pain est une métaphore merveilleuse pour Christ. La vie pour celui qui n'a pas la vie spirituelle. D'abord, ce verset parle de Christ. Je suis le pain de vie. En tant d'aspects, en tant de sens du terme. Et deuxième point, ceci parle de nous. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » C'est nous, la faim, c'est nous. Le problème, c'est que nous ne le réalisons pas la plupart du temps. Mais, vu spirituellement parlant, nous mourons de faim. Il n'y a rien pour notre âme. Vous pensez à la maisonnée qui a faim. Il n'y a rien à manger. Le lundi, le mardi, le mercredi, rien à manger. Vous êtes faible, vous avez le vertige, ceci fait mal et vous aspirez à manger quelque chose. C'est vous dans votre âme. Tout est couvert et caché dans notre vie matérielle. Nous ne pensons pas à ces choses. Nous allons rapidement au cinéma ou devant la télévision ou visiter des amis, ou à notre travail, et nous mettons de côté ce besoin. Mais dans notre âme, nous avons une âme qui est en train de mourir de faim, loin de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés, nous sommes simplement en vie, dans le règne matériel, mais pas spirituel. Nous mourons de faim, c'est là l'image. Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ceci parle de nous, notre besoin, notre faim, et sans aide de Dieu, Nous sommes sans force morale, un petit peu mais pas beaucoup. Nos péchés vont nous rattraper. Nous allons tomber dans le péché et nous serons de pire en pire alors que notre vie va continuer. Des péchés de pire en pire et un jour nous devrons nous tenir devant Dieu. Et nous avons ce vide en nous. Il n'y a pas de but glorieux dans notre vie, il n'y a pas de but éternel parce que l'âme meurt de faim et nous sommes condamnés. Un jour nous serons appelés dans l'éternité. Ceci va être ramené à notre esprit en quelques secondes, toute la vidéo de notre vie, si vous voulez, ou quelque chose de bien plus extraordinaire qu'une vidéo. Tout notre péché, toute notre culpabilité, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait, toutes nos offenses contre Dieu, et nous serons si conscients du fondement de notre jugement. Et Dieu va œuvrer contre nous, ses péchés contre Dieu, ses péchés contre d'autres personnes. Pas de lumière, pas de communion avec lui, pas de pardon. Et Dieu va nous rejeter loin de sa présence pour l'éternité. Tout ceci est caché. Vous ne voulez pas y faire face, mais c'est la vérité. La faim en vous-même, votre âme meurt de faim, si loin de Dieu, ignorant de lui et errant. Ci et là, toujours plus loin de lui, comme le fils prodigue, dans un pays lointain, loin de son père, jusqu'au jour où il réalise qu'il est arrivé à une fin, à la fin de lui-même, et il se dit « Je vais retourner vers mon père et dire « Père, j'ai péché contre toi ». Et c'est là ce que nous avons besoin de faire. Ceci parle de Christ, ceci parle de nous. Nous avons faim dans notre âme. Mais ceci parle de la vie éternelle. Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ceci parle de la vie éternelle. « Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que vous comprenez les métaphores de la Bible ? Ne soyez pas comme un Israélite, un chef des Juifs, comme Nicodème dans Jean chapitre 3, j'aimerais lire « Ne soyez pas comme lui, c'était un homme très intelligent, un enseignant, un chef des Juifs, mais il n'a pas compris cette métaphore. » Jésus lui dit, Jean chapitre 3, verset 3, « en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et écoutez ce que cet homme si intelligent lui répond. C'est si absurde. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris cette métaphore. La nouvelle naissance, ceci parle de la transformation de la vie. Non pas physiquement né à nouveau, mais recevoir la vie nouvelle, être transformé par Dieu, être réconcilié avec Dieu, être amené dans la communion avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Il n'a pas compris cela. Et ceci devait lui être expliqué en détail. Et de même ici, dans ce verset, « Je suis le pain de vie. Vous prenez Christ et vous avez la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Avec les choses profondes de la vie, vous n'aurez jamais faim. Dans la parole de Dieu, vous aurez une explication pour tout. Pourquoi vous êtes là? Qui vous êtes? Ce que Dieu fera pour vous? Où vous allez? Comment il va œuvrer en vous? Son caractère, ses attributs, ce qui est glorieux par rapport au fait d'être sauvé, toutes ces promesses, vous n'aurez jamais faim par rapport à la connaissance sur le chemin de la vie spirituelle. Vous n'aurez jamais faim de réconfort dans la parole de Dieu ou pour sa force et son aide, vous n'aurez jamais faim. Et ceci parle d'éternité. Quand vous en arrivez à la fin de votre vie, que vous êtes appelé à vous tenir devant Dieu, ce ne sera pas un temps de terreur pour vous, le dernier moment de votre vie. L'âme qui laisse le corps et qui arrive dans l'éternité, l'âme quitte le corps. Philippe Doddridge l'exprime ainsi. « Et vous, mes vêtements de chair, qui étaient mes partenaires sur ce chemin difficile, vous êtes laissés là, dans les larmes et dans le regret. Vous devez laisser votre corps en arrière. Vous devez être pris et aller dans l'éternité. Et ce sera la terreur et la crainte et la peur si vous n'avez jamais été pardonné, si vous n'êtes pas venu à Christ, si votre âme a faim et meurt de faim, il y aura ces cris de votre conscience en vous et ce vide en vous et ce sens de votre condamnation. Tout ceci va vous saisir de terreur et vous arriverez devant Dieu pour être jugé, chers amis. C'est là l'enseignement de l'homme plein d'amour, le sauveur du monde, qui est venu pour souffrir, pour mourir pour les pécheurs. Son amour était si grand, si profond, sa tendresse, sa compassion, c'est là son enseignement. Si vous mourrez sans lui, vous serez condamné à une éternité loin de Dieu, souffrant la condamnation du tourment de l'enfer. C'est là l'enseignement de Christ, de Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Mais si vous l'avez lui, quand ce moment final arrive, au lieu d'entendre « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas », vous allez entendre que vos péchés sont pardonnés et vous irez avec joie en vous réjouissant et vous réaliserez ce sens de gloire que jamais vous n'aurez pu ressentir sur cette terre, une joie incommensurable, pleine de gloire. Comme le dit l'apôtre Pierre, vous serez plein de joie, de paix, de bonheur. En peu de temps, vous serez dans le hall de réception, dans le hall du roi des rois, dans le lieu des noces de l'agneau, et vous allez rencontrer les gens qui ont été sauvés par Christ, qui sont allés avant vous. Vous verrez les anges, vous verrez le Seigneur, vous verrez des choses si glorieuses, et vous serez en sécurité, et vous lui appartiendrez pour toute l'éternité. Ce verset parle de lui, ce verset parle de vous, ceci parle de la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Dans toute l'éternité. Ainsi, vous ferez face à Dieu dans ces paroles de Charles Wesley après sa conversion. Il n'y a plus de condamnation, je n'ai plus de crainte. Jésus et tout en lui m'appartient. Je suis en vie en lui. Ma vie est revêtue par sa justice, plein d'assurance. Je m'approche du trône éternel et je réclame la couronne en Christ qui m'appartient. C'est là ce dont parle ce verset. Ce verset parle de lui, de son salut glorieux. Comment il est venu sur cette terre pour être humilié, pour payer le prix pour notre salut, pour notre rédemption. Ceci parle de nous, de notre âme qui a faim, qui meurt de faim. Et nous avons cette faim en nous si nous ne l'avons pas dans notre vie. Ceci parle de la vie éternelle et la gloire extraordinaire qui attend tous ceux qui lui appartiennent. Et pour conclure, j'aimerais relire ces paroles. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi ou celle qui vient à moi, nous venons en tant qu'individus. Nous venons un par un. Nous venons personnellement. Vous allez rentrer à la maison, trouver un endroit calme et fléchissez le genou dans la prière et dites à Christ, je suis un pécheur qui a besoin du salut. Je suis une âme perdue. Je suis condamné. Et ceci est juste. Si je vais dans l'éternité ainsi, je serai condamné éternellement. Je ne mérite rien d'autre. Seigneur, pardonne-moi. Je crois que tu es venu, que tu as souffert, que tu es mort à la croix du calvaire pour une créature telle que moi. Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi et fais de moi une nouvelle créature que je puisse être ton disciple. Œuvre dans mon cœur. Je te donne ma vie. Celui qui vient à moi. Vous êtes si loin, vous devez venir à lui. Vous êtes si loin que vous pourriez être. Peut-être vous êtes un athée, un incroyant. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Vous ne voulez pas Dieu. Quelle distance vous devez vous détourner du monde. Mais vous n'avez rien de difficile à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une propre justice. Vous n'avez pas besoin d'améliorer votre vie ou de faire un long voyage. Vous devez simplement vous tourner, vous détourner de ces choses et croire en lui et lui donner votre vie. Lui fera toute l'œuvre. Le salut vient entièrement du Seigneur. Un homme m'a dit l'autre jour, il était catholique toute sa vie. Est-ce que tu connais la différence entre ce que les prêtres catholiques vous disent et ce que la Bible nous dit ? Quelle est la différence ? C'était là sa question. Et je lui ai dit, « Oh, l'Église catholique va vous dire que vous devez œuvrer pour votre salut et travailler dur. Mais Christ dit, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir. Lui fera l'œuvre. Il va vous changer, vous transformer et vous donner librement. Vous ne pouvez pas le mériter. » Et vous serez son enfant, et vous serez transformé. Celui qui vient à moi, en croyant sincèrement, en se repentant de son péché, n'aura jamais faim. Dans cette vie, spirituellement, métaphoriquement, et pas dans l'éternité non plus. Ceci parle de Christ, le Sauveur. Ceci parle de moi, de mon besoin. Ceci parle de la vie éternelle. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous, nous te prions. Enseigne-nous chacun. Touche nos cœurs et amène-nous près de toi. Seigneur, accorde-nous la repentance et la vie. Accorde, Seigneur, cette expérience merveilleuse du salut. À tous ceux qui viennent, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.